franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier.
Bonjour, Patricia, bonjour Pierre.
Bonjour.
Et bonjour à tous. Imaginons, nous sommes en 2040. Chronique signée Robert Solé dans l'hebdomadaire Le 1. Nous sommes en 2040 et quel est donc le principal souci des autorités? C'est la dépendance au smartphone. Toutes les enquêtes l'ont confirmé, l'utilisation compulsive de cet appareil porte atteinte à la santé des individus. C'est même devenu l'une des premières causes de mortalité prématurée. Une taxe anti-dépendance a été mise en place, mais sans réussir à faire baisser les ventes. Pas plus de succès pour le patch anti-smartphone proposé dans les pharmacies. Quant au smartophage, machine de substitution disposant d'un clavier mais ne permettant pas d'appeler, il ne fut adopté que par une minorité de consommateurs. Nous sommes en 2040 et les campagnes de sensibilisation n'ont eu aucun effet. Puisqu'il est établi que le smartphone tue, je l'interdirai, avait même promis un candidat à l'élection présidentielle de 2037. Mais ce propos extrémiste avait beaucoup choqué, y compris dans son propre camp. Une chronique d'anticipation, signée donc Robert Solé dans le 1, un numéro entièrement consacré à cette addiction qui touche de plus en plus de monde. « Jamais sans mon smartphone », c'est le titre à la une. Témoignage d'une enseignante d'un collège d'Aubervilliers. Elle décrit des élèves totalement accros. « Lorsqu'il arrive que je confisque un portable, l'enfant martyr est prêt à tous les compromis », dit-elle. « Punition, heure de colle, ce que vous voulez madame, mais pas mon téléphone, parce que sans je vais faire comment ?» Sous-entendu, comment se réveiller sans son alarme pré-programmée? Comment s'habiller sans avoir préalablement consulté une appli météo? Comment marcher jusqu'au collège sans sa playlist musicale dans les oreilles? Comment apprécier les moments entre copains sans les prendre en photo? Madame, je vous jure, mon portable, c'est ma vie. Lire aussi l'analyse du philosophe Pierre Zawi. En philosophie, écrit-il, l'aliénation se définit par le fait d'être en vérité possédé par l'objet que l'on croit posséder. Or, poursuit-il, il est assez facile de remarquer si l'on devient dépendant de son téléphone. Quand on commence à le manipuler sans savoir d'avance à quelle fin spécifique, ou bien quand on commence à le consulter en plein repas de famille, alors même que quelqu'un est en train de nous parler, et l'on oublie souvent qu'il existe une petite touche sur laquelle il est possible et facile d'appuyer, la touche où il est écrit « off ». L'an dernier en France, 20 millions de smartphones ont été vendus et chacun consulte le sien en moyenne 200 fois par jour. On peut déclarer sa flamme par SMS, rompre par SMS, ou licencier un salarié et peut-être même bientôt voter par SMS. Commente par ailleurs le sociologue Jean Viard, qui voit dans le smartphone l'objet culte de notre époque, un objet qui du reste est également devenu une arme, un instrument au service des actions terroristes et un outil nouveau pour faire la guerre quand à Alep ou à Mossoul, les soldats communiquent avec les survivants cachés dans les ruines et puis à l'arrivée de chaque groupe de prisonniers, on vérifie les derniers appels, pour savoir de quel camp ils sont, il ne faut jamais oublier, conclut-il, que le smartphone a une mémoire infaillible. Passionnant dossier, et c'est donc à lire cette semaine dans le 1.
Vous parliez de Mossoul, Frédéric, vous parliez d'Alep, il en est également question dans la presse quotidienne.
Mossoul, c'est à la une du Figaro. Donald Trump peut-il sortir l'Amérique du piège irakien? 5 ans après le départ d'Irak des forces américaines, les États-Unis sont toujours engagés dans la bataille de Mossoul. Et selon le journal, le dossier irakien qui a déjà empoisonné 2 présidences américaines risque encore d'encombrer longtemps le bureau ovale de Donald Trump. Alep, c'est à lire dans Le Monde, avec la photo d'un vieil homme qui pleure à la une du journal. Il sort la tête de la fenêtre d'un bus et tend la main vers un plus jeune, grande photo sous ce titre « Adieu Alep ». Tout simplement, et le quotidien de décrire l'évacuation des 50 000 habitants de la partie est de la ville syrienne. Une évacuation qui a commencé jeudi, mais dès hier, elle a été suspendue par le régime. Et le piège s'est une nouvelle fois refermé, note Libération, qui tente ce matin de démêler le vrai du faux dans tout ce que l'on peut dire et entendre sur la guerre. Démêler entre info et intox, pointer les manipulations et en premier lieu celle de Bachar al-Assad, et celle de la Russie. Les rebelles d'Alep sont-ils des terroristes? Il y a des djihadistes, oui, mais ils sont très, très minoritaires. Poutine et Al-Assad luttent-ils contre le groupe État islamique? Non, pour la simple raison que les combattants de l'organisation ne sont pas présents à Alep Est. Y a-t-il eu des scènes de liesse à Alep Ouest au moment de la reprise de la ville par le régime? Les images proviennent de la télé officielle syrienne. Et comme vous, je n'ai vu ces manifestations qu'à la télévision, raconte dans le journal un habitant d'Alep, contacté par le biais de l'application WhatsApp installé sur son téléphone. Les smartphones n'ont donc pas que du mauvais. Ils permettent également de recueillir de tels témoignages. Les journaux s'intéressent également ce matin à la politique. Bien sûr, c'est aujourd'hui que le Parti Socialiste va officialiser les investitures de ses candidats pour les législatives de 2017. Et le Parisien s'interroge, y aura-t-il des sanctions pour les députés pro-Macron?
Et puis de son côté, le site Huffington Post revient sur la petite gaffe de l'ancien ministre sur Twitter.
Une gaffe pour laquelle Emmanuel Macron s'est attiré un torrent de reproches hier. Avant de s'envoler pour une tournée de 5 jours aux Antilles, le candidat à la présidentielle a accepté de poser pour un selfie avec son téléphone, dans l'avion, en compagnie d'un lycéen parti retrouver sa mère installée sur l'île Papillon. Puis il a posté la photo sur Twitter, accompagné de ce commentaire: avec Mathias, lycéen de Bourg-en-Bresse, il rejoint sa mère expatriée en Guadeloupe pour Noël, un clin d'œil sympathique, s'il n'était pas gravement insultant pour la collectivité ultramarine, laquelle fait partie intégrante du territoire national. La Guadeloupe étant donc une région et un département français, il ne s'agit pas d'une expatriation. Rapidement, le commentaire a été corrigé. Mais trop tard, le mal était fait. Et comme le résume le site d'Outre-mer Première, voilà une visite qui démarre plutôt mal.
7 Français sur 10 apprécient les fêtes de fin d'année.
Sondage à lire dans les colonnes de Midi Libre ce matin. 7 sur 10 qui les apprécient. Cela signifie donc que 3 Français sur 10 n'aiment pas le réveillon de Noël, pas plus que celui du jour de l'an. Mais bon, il ne s'agit ici que d'un sondage. D'ailleurs, à propos des fêtes de fin d'année, le Parisien fait état de la colère des commerçants de la capitale. Circulation alternée, coup dur pour les achats de Noël. Seules les plaques impaires peuvent circuler ce samedi à Paris et en proche banlieue. Et dans les magasins, on craint que la mesure ne décourage les clients. Les commerçants sont pris en otage. S'emporte dans le journal le président de la Confédération des commerçants de France, auquel il conviendrait sans doute de rappeler ce qu'est vraiment une prise d'otage, mais aussi ce que sont les transports en commun, le bus et le métro, qui d'ailleurs sont gratuits ce samedi, me semble-t-il. Enfin, vous verrez de nombreuses photos de jolies jeunes filles dans la presse ce matin. C'est ce soir qu'aura lieu l'élection de la nouvelle Miss France. Et les journaux soutiennent les candidates de leur région. Myrtille à la une du Courrier Picard, Axel à la une du Petit Bleu d'Agen, Noémie à la une de la Provence ou bien encore Claire dans l'Alsace.
Ah ben voilà.
Voilà.
C'est parfait. Pour Pierre. Toutes rêvent de la couronne et se moquent de la polémique lancée par le mouvement Oser le féminisme. Dans un communiqué cinglant, celui-ci a protesté contre un événement ringard en cela qu'il considère encore les femmes comme des potiches. Accusé de sexisme, le concours se fait écharper. Relève Quentin Girard dans Libération avant d'annoncer à laquelle des candidates il donnera sa voix, Miss Champagne-Ardennes. Pas parce qu'elle est plus belle ou intelligente que les autres, mais pour son patronyme, elle s'appelle Charlotte Patate. Donner comme prénom à sa fille un nom de pomme de terre quand on s'appelle déjà Patate, il fallait oser, écrit-il. De son côté, le Parisien s'est penché sur l'un des secrets les mieux gardés de cette élection cathodique. Combien rapporte le vote des téléspectateurs à la chaîne TF1 et aux producteurs en démol? Selon le quotidien, la somme serait comprise entre 500 000 et 800 000 euros, sachant que chaque vote est facturé 99 centimes.
Là, c'est nous les patates. Hein.
Vous votez 100 fois, vous serez donc prélevé de 99 euros. Mmh. Et c'est le même prix que vous appeliez de votre téléphone fixe ou bien de votre smartphone.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.